entre enjeux de l'univers coté et de l'univers non coté, puisque moi, effectivement, j'ai créé Citizen Capital, j'ai cofondé Citizen Capital il y a 10 ans, je dirais sur les décombres de la crise de 2008, je pense, même si on s'est créé en pleine crise, 3 mois avant la chute de Lehman Brothers. Et je vais partager avec vous à la fois les enseignements de ces 10 ans et puis l'implication qu'on a aujourd'hui dans un débat qui est issu de la réflexion et du rapport Nota-Sénard sur la notion de raison d'être et l'entreprise à mission, dans lequel on se reconnaît beaucoup. Alors, Citizen Capital, c'est la philosophie qu'on a eue, c'est de lever de l'argent pour investir dans des entreprises en fonds propres, plutôt des petites entreprises, avec l'objectif de servir des enjeux de société. Donc on vient pas du tout de l'univers du coté, ouais. Et on vient pas du tout non plus de l'économie sociale et solidaire. Moi, je ne viens pas de la finance. Donc c'est assez improbable comme attelage au départ. Mon associé avait passé 10 ans dans un gros fonds qui faisait plutôt du LBO, sur lequel il avait beaucoup à redire vers 2006-2007, anticipant les déviances, on va dire, de ce secteur, souhaitant participer plus clairement dans son métier à améliorer la société dans laquelle il est, en particulier sur les sujets d'emploi. Et moi, j'ai plutôt passé 10 ans à travailler dans la sphère publique sur l'évolution des politiques publiques en matière d'égalité des chances, de diversité, donc assez loin, en fait, de ce qui nous rapproche aujourd'hui. Et donc, on a levé ce fonds, on a levé 22 millions en 2008 auprès d'une dizaine d'investisseurs institutionnels qui étaient des pionniers à l'époque. On ne parlait pas encore d'impact investing. Et c'était très compliqué à l'époque de faire une proposition de valeur à ces investisseurs en disant « Notre objectif est d'avoir un rendement financier relativement ambitieux » et de vous offrir un rendement social. Donc c'est le projet, c'est l'association d'un rendement social avec un rendement financier. Et la façon, la stratégie d'investissement qu'on a proposée, c'est de prendre des participations dans des entreprises qui ont besoin de fonds propres pour financer leur croissance et qui intègrent un objectif social ou environnemental. Alors nous, on a eu un tropisme très social, sociétal au départ, mais je pourrais vous en dire plus, mais on évolue aujourd'hui considérant qu'on est... Le social et l'environnemental sont l'envers et l'endroit d'un même prisme. Des entreprises qui intègrent des objectifs de transformation de la société au cœur de leur modèle économique. Donc, c'est pas... On était assez loin à l'époque dans notre esprit des démarches RSE, finalement. On cherchait des entreprises qui s'appuie sur le levier de l'entreprise pour transformer quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans la société. Et je pense que c'est important comme point de départ, effectivement, parce que toute la méthodologie de mesure d'impact découle de ça. Et donc, on investit en minoritaire, mais de façon minoritaire significative, c'est-à-dire qu'on prend des participations au minimum de 15% du capital, au maximum de 49%. Il nous est même arrivé d'être majoritaire, mais ce n'est pas ce qu'on souhaite. Sur des entreprises de cette taille qui font entre 1 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est plutôt entre des start-up et des PME. C'est des entreprises, évidemment, dont le dirigeant est aux commandes, souhaite l'être, et on a intérêt à ce qu'il soit majoritaire, de notre point de vue. Donc on a un vrai rôle d'investisseur minoritaire, mais par contre d'influence importante. Et on a des clauses qui peuvent même ressembler à celles d'investisseurs majoritaires, c'est-à-dire qu'on est extrêmement actif dans l'accompagnement de l'entreprise. Et quand on discute avec des dirigeants d'entreprise, on essaie de comprendre le modèle économique de l'entreprise, le business, et parallèlement le projet sociétal, l'ambition, la vision des dirigeants. Il est arrivé qu'on ait trouvé des projets potentiellement magnifiques, mais avec des dirigeants qui n'avaient pas de vision de transformation. Et on essaie de comprendre quelle est l'ambition, et tout au long de la due diligence, on va arriver progressivement à établir un certain nombre d'objectifs qui traduisent cette ambition, qui sont associés à quelques indicateurs d'impact. Mais alors là, c'est très radicalement différent de l'univers coté, puisqu'on va essayer de comprendre quelle est la mission de l'entreprise. Par exemple, une des entreprises qu'on a financées, qui est Open Classroom, qui fait de l'éducation en ligne, et dont la mission, ils sont venus avec une vision très claire de leur mission, qui est de rendre l'éducation plus accessible et de permettre aux gens d'être employables immédiatement après la formation. Eux sont venus en nous, avec cette conviction de dirigeant, et pendant 2-3 ans, on a bâti ensemble, finalement, on a structuré avec eux leur stratégie d'impact. Et on a établi dès le début que les 2-3 indicateurs clés de réussite du projet social étaient la capacité à diplômer des personnes, et en particulier des personnes issues de milieux ou plus ou moins éloignés de l'emploi, donc on regarde particulièrement les demandeurs d'emploi et les personnes bac et infrabac. Et puis, il y a un deuxième indicateur qui était très compliqué à cerner quand on a investi, mais qui est devenu évident assez rapidement après, qui est que eux sont revenus 6 mois plus tard nous voir en disant, en fait, il y a un indicateur qui est clé pour nous, c'est notre capacité à remettre les gens à l'emploi et pas uniquement à les former. Ce qui, en fait, est passionnant parce que la réflexion sur le projet sociétal de l'entreprise induit une évolution du business model lui-même. Et il se trouve que aujourd'hui, Open Classroom travaille énormément avec des entreprises dès en amont et est capable de placer des gens assez tôt dans l'emploi. Et donc, on aboutit à annexer au pacte d'actionnaires ce qu'on appelle un business plan impact, qui est assis sur 2, 3, 4, 5 indicateurs au maximum qui traduisent la mission, mais qui ne sont pas, qui n'illustrent pas la responsabilité sociale de l'entreprise. C'est-à-dire, après, on a une analyse assez commune au private equity, qui est une analyse qu'on appelle, nous, ESG, sur les 3 axes de la responsabilité sociale, où on va plutôt avoir une analyse plus classique de risque-opportunité, de démarche de progrès, en regardant les aspects de la RSE. Mais les indicateurs de mission sont souvent assez différents, voire complètement différents, des indicateurs qu'on va regarder sur la RSE. Ensuite, comment ça se traduit en termes de modèle économique pour nous? Et ça pose tout un tas de questions, je pense, sur le rôle de l'entreprise, de la finance et, in fine, du capitalisme. Nous, l'équipe, vous connaissez peut-être le fonctionnement du private equity, mais la tradition est qu'il y a un intéressement pour l'équipe qu'on appelle le carried interest, qui est un terme très anglo-saxon, qui est l'intéressement de l'équipe à la performance du fonds. Et comme l'équipe, forcément, les individus mettent peu d'argent, l'équipe d'investissement,
la société de gestion.
On est capable de mettre peut-être 0,5% du fonds à titre d'individu, ce qui est déjà pas mal, et ce qui permet d'avoir un incentive, c'est qu'on a une partie de la performance qui nous revient si on fait des bons deals. Donc traditionnellement, ce carré d'intérêt, c'est bien sûr assis sur la performance financière. Et nous, notre carré d'intérêt est assis à 50% sur la performance financière et à 50% sur la performance sociale. Et donc, on a démarré ce que nous, on appelle... Alors, on est assez modeste, hein, parce que c'est très compliqué de mesurer la performance sociale. C'est très compliqué de mesurer l'impact, de toute façon. On en est très conscient, mais il nous semble que... Enfin, on est à l'aube de l'évaluation de ce type de choses, et qu'on est dans le sens de l'histoire de l'essayer, et on sait que ça sera imparfait. On sait que la moitié du temps, de la même façon que la moitié du temps un business plan financier est faux, il s'avère totalement faux, la moitié du temps nos business plans impact seront faux, mais néanmoins on sera capable de dire au bout on va s'améliorer sur le prochain fonds, et on a une cohérence et un alignement de l'équipe sur le projet et la philosophie de la stratégie de l'investissement. Ce qui est important aussi à dire, c'est la spécificité de ces indicateurs, c'est-à-dire que plusieurs investisseurs, nos investisseurs institutionnels, nous ont dit « ça serait bien que vous arriviez à consolider tout ça et à nous donner quelques indicateurs clés qu'on puisse mettre dans nos tableaux de reporting ». Et nous, on leur dit, attention, ça serait la fin, ça serait totalement contre-productif pour l'impact investing d'essayer de vouloir normer en tout cas aujourd'hui, des indicateurs qui sont spécifiques à chaque entreprise. Évidemment, nous, sur les 8 entreprises qu'on a financées, il n'y a pas un indicateur commun. Et même si on prend l'indicateur, par exemple, pour être très schématique, de l'emploi, il y a 1000 façons de mesurer l'emploi. Le retour à l'emploi de qui, avec quelle durée de l'emploi. Enfin, c'est très dépendant dans la mission d'entreprise. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est cette liberté de l'entreprise à déterminer sa mission. Et donc la réussite de la mission. Les questions que ça nous a posées sur ces 10 dernières années, c'est que en tant qu'investisseurs, on est quand même amené à se poser la question de nos obligations fiduciaires. On sert l'intérêt de nos porteurs de parts, nos investisseurs institutionnels, mais est-ce qu'on sert un intérêt uniquement financier ? Quand on regarde le code monétaire et financier, on ne voit que la partie financière, et nous, il nous semble que nos investisseurs ont mis de l'argent chez nous avec un double objectif de rendement social et financier, mais qui n'est traduit nulle part. Et c'est un espèce presque de non-dit, au point où il nous est arrivé de nous poser des questions sur est-ce que finalement on est dans notre rôle d'investisseur, par exemple, de rétribuer les salariés au moment de la sortie, de rétribuer si l'investissement s'est bien passé. On est très engagé sur tout ce qui est partage de la valeur, de rétrocéder une partie de notre plus-value aux salariés. On touche au portefeuille de nos porteurs de parts. Souvent, toutes ces questions se cristallisent au moment où on est censé justement cristalliser la plus-value. On a, par exemple, un acquéreur potentiel pour une entreprise qui a un projet sociétal affirmé. Il y a un acquéreur qui valorise ce projet sociétal, l'autre pas du tout. On est forcément à des moments où on peut avoir des tensions entre, même si notre thèse d'investissement repose toujours in fine sur la corrélation entre les leviers de performance financière et le levier de performance sociale à terme. Mais tout ça n'empêche pas évidemment qu'il y a des tensions. Et donc, la réflexion gouvernementale et le rapport Nota Sénat récemment on a été très impliqués dans ce débat. Et nous ont poussé à créer avec Mines ParisTech. Alors, je ne sais pas si nous, on est très liés à l'équipe de recherche de Mines ParisTech, Blanche Ségrestin, Armand Hatchuel et Kevin Levillain, avec qui on travaille depuis 4 ans, sur un programme de recherche sur l'emprise à mission, l'objet social étendu. Et on vient d'initier ce qu'on appelle une communauté des emprises à mission, dont je peux vous en dire plus si on échange.
Ben, merci beaucoup Laurence. Encore une fois, j'ai plein